Ceci, c'est la naissance de la logique. Vous voyez que c'est quelque chose de très curieux, ça. La logique implique tout ça. Et Aristote a tout de suite saisi ça. C'est assez génial, du reste. Parce que ça n'a pas bougé. Et je crois que ça ne peut pas bouger. Il n'y a pas de progrès dans la logique. C'est du statique. C'est pas la vie. Il n'y a pas de progrès. Vous le saisissez ou vous ne le saisissez pas, ça c'est autre chose. Vous pouvez progresser en logique, mais la logique ne progresse pas. La logique, c'est le conditionnement de ma vie intellectuelle. Ma vie intellectuelle est conditionnée par ça. Je suis conditionné par la logique. Alors, si vous reconnaissez la logique, alors, maintenant, on va regarder quelque chose de très important. Si vous reconnaissez la logique, vous pouvez, à ce moment-là, comprendre que la connaissance logique implique une attitude réflexive. Je réfléchis sur le conditionnement de ma vie intellectuelle. C'est pas spontané. Non, c'est pas drôle, la logique, c'est pas spontané. La logique est toujours très sérieuse. Les professeurs de logique, c'est toujours très sérieux. Faut jamais chercher à blaguer. C'est toujours très sérieux. Parce que la logique, c'est quelque chose de très, très rigoureux. Ça demande d'être comme ça, c'est pas autrement. Puis quand vous demandez à un professeur de logique, pourquoi, il dit, ah, cherchez pas. C'est un petit peu comme le droit, vous voyez. Il y a quelque chose d'analogue. C'est très sérieux. C'est l'intelligence qui est conditionnée de cette manière. Alors, où vous réfléchissez sur la logique, et vous saisissez que la logique n'est pas la connaissance. La connaissance, c'est toujours la réalité que vous regardez. Tandis qu'en logique, vous regardez le conditionnement de votre connaissance. Donc vous faites tout de suite la différence entre la connaissance directe à l'égard des réalités et le conditionnement que vous avez par rapport à la connaissance de cette réalité. Donc, quand vous réfléchissez, vous montrez que toutes vos connaissances ne sont jamais adéquates à la réalité. C'est pour ça que dès qu'on comprend la logique, on ne peut plus être positiviste. C'est impossible. Dès que vous avez saisi votre raison, vous torpillez tout positivisme. Le positivisme qui prétend que la connaissance scientifique, c'est la réalité. Mais non, c'est pas la réalité. C'est quelque chose de la réalité. C'est pas la réalité. Puisque toutes mes connaissances sont abstraites. Donc je peux pas identifier connaissance et réalité. Ça, c'est le bienfait de la logique. Mais la logique me montre que dès que je connais quelque chose, nécessairement, je le transforme. Je ne peux pas le faire autrement, puisque ma connaissance implique toujours une abstraction. Et je peux saisir la manière dont je transforme cette réalité. Et je saisis la manière dont je transforme cette réalité en regardant l'universel. Ça, c'est très important. Deuxièmement, je vois que si je confonds logique et philosophie, ça aboutit à quoi? Ça a été fait avec Occam. Et ça a été fait dans la scolastique décadente. De sorte que des quantités de thomistes confondent philosophie et logique. Je ne veux pas faire la critique ici. Mais si on voulait être méchant, on verrait que des quantités de thomistes confondent depuis Occam logique et métaphysique. Alors ça devient très grave. Parce que la logique, par définition, ne saisit pas la réalité. La logique, par définition, ne saisit que le conditionnement de mon intelligence. Mon intelligence cherche à connaître la réalité, mais pas la logique. En logique, on est très content de demeurer dans l'universel. C'est le but de la logique, c'est de connaître l'universel. Surtout pas d'en sortir. Parce que dès que je sors de l'universel, la logique disparaît. Dès que je rejoins l'individu. Vous voyez, quand on a dit atomisme, ça a été dit et répété, la science est la connaissance de l'universel. Mais c'est tout à fait faux. La science, c'est pas la logique. La philosophie, c'est pas la logique. La philosophie, c'est la connaissance de la réalité existante. C'est la connaissance de l'homme. C'est pas la connaissance de l'universel. Ça, c'est la logique. La logique connaît l'universel. C'est ce que nous avons essayé de faire ensemble. Nous savons que l'universel, c'est pas la réalité. Vous l'avez jamais expérimenté. Alors, si je confonds universel, si je confonds logique et philosophie, vous voyez tout de suite la catastrophe. C'est que je m'enferme dans l'universel et dans un être de raison. Et c'est pour ça qu'on dira, les philosophes sont très loin de la réalité. Ah oui, parce que ce sont des logiciens. Et le logicien comme tel est enfermé dans la logique. Et le philosophe, lui, s'il est vraiment philosophe et qu'il essaie de saisir la réalité, doit saisir l'homme. N'importe quel homme, mais l'homme existant. Et par le fait même, c'est toujours tel homme. Puisque je ne peux connaître l'homme qu'en saisissant tel homme. Mais je fais la distinction entre tel et homme. Et au-delà du tel, je saisis l'homme. Et le philosophe essaie de saisir justement l'homme existant. Et non pas du tout l'universel animal raisonnable. Ça n'a aucun intérêt. C'est intéressant au point de vue logique, mais au point de vue philosophique, ça n'aboutit pas. Voyez donc que quand on confond logique et philosophie, on aboutit à quelque chose d'affolant. Alors, par rapport à Dieu, Dieu, c'est l'être le plus universel. C'est l'être le plus vague, le plus universel, le plus... L'œcuménisme, c'est l'être qui contient tous les autres. Donc le plus générique. Et donc on est à 100 lieues de Dieu. La logique ne peut rien nous dire de Dieu. Puisque Dieu n'est pas un être universel. Puisque Dieu est l'être le plus singulier qui soit. C'est l'être existant dans tout ce qu'il est. Vous voyez tout de suite les confusions qu'il peut y avoir. Ça, c'est quand même très important de saisir ça. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'avoir certaines connaissances de logique pour connaître le conditionnement de ma vie intellectuelle. Et en saisissant le conditionnement de ma vie intellectuelle, je peux mieux comprendre ce qu'est mon intelligence. C'est le conditionnement de ma vie intellectuelle d'abstraire. Et d'abstraire d'une façon inconsciente, et c'est très intéressant de voir l'inconscient de mon intelligence. Et d'une façon consciente. Quand je fais de la science, je suis conscient de faire de la science. Je crois qu'un scientifique qui n'aurait pas conscience de faire des mathématiques n'est pas un mathématicien. Un physicien qui n'aurait pas conscience de faire de la physique n'est pas un physicien. Un philosophe qui n'est pas conscient de faire de la philosophie n'est pas un philosophe. La connaissance scientifique réclame la conscience. Mais il y a une première connaissance qui est la connaissance courante, j'allais presque dire du bon sens, elle n'est pas toujours consciente. Et celle-ci, c'est justement celle des cinq modalités de l'universel. Il faut prendre conscience de ces cinq modalités dont habituellement je n'ai pas conscience. C'est pré-philosophique. Et c'est la base. Et tout repose là-dessus. Tout repose sur ces manières particulières dont je connais. Enfin, dernier petit problème logique, très intéressant. Si la logique présuppose toujours la connaissance, toujours, la logique n'est pas première, elle est toujours seconde. Il faut connaître pour abstraire. Et la connaissance se fait par l'abstraction et dans l'abstraction. Et la logique consiste à saisir ce mode abstrait de ma connaissance qui s'exprime par l'universel, cet être de raison. Je peux saisir par le fait même que la logique va dépendre de toute la structure de ma vie intellectuelle. Or, ma vie intellectuelle implique, nous l'avons vu, appréhension, jugement, raisonnement. Nous aurons donc la logique de l'appréhension. C'est la logique de l'universel. C'est ce que nous avons fait. Tout repose là-dessus. Nous avons ensuite la logique du jugement. C'est l'attribution. L'universel demande d'être attribué. C'est la logique de l'attribution. L'attribution, vous voyez bien ce que c'est. Pierre est intelligent. Vous attribuez intelligent à Pierre. Pierre a un visage blanc. Vous attribuez blanc à un visage. Le visage de Pierre est blanc. La logique de l'attribution. Puis vous avez la logique du raisonnement. C'est-à-dire la logique de l'inférence. Vous saisissez qu'au niveau de l'universel, il peut y avoir des raisonnements. Et que tout raisonnement présuppose l'universel. Et que toute attribution présuppose l'universel. Donc vous voyez bien que toute la logique repose sur l'universel. S'il n'y avait pas la création de l'universel, mon intelligence crée cet être de raison. Ce n'est pas la création de cet universel, il n'y aurait pas de langage. Il n'y aurait pas de science. Le langage présuppose toujours l'attribution. Proposition. Petite pierre est intelligent. Le cochon et l'hirondelle. Vous les unissez. Tout votre langage présuppose l'universel. Pas de langage sans l'universel. C'est pour ça que pas de langage sans logique. Quand vous détruisez la logique au niveau du langage, parce que ça existe, l'anarchie, vous détruisez profondément la manière de pouvoir communiquer aux autres. Et vous supprimez toute la science. Et c'est curieux ça, et c'est intéressant de voir que la logique touche non pas un principe, mais une condition sine qua non de toute ma vie intellectuelle et de toutes mes communications avec les autres et de tout le progrès de la science. Alors on comprend que cette petite condition sine qua non qu'est l'universel est quelque chose de si important et que par le fait même, si vous modifiez votre conception de l'universel, vous allez tout modifier. Alors là, ce serait intéressant de comparer la logique d'Aristote avec la logique mathématique d'aujourd'hui, la logistique. En deux mots, c'est très simple. La logique d'Aristote se fond sur la réalité. C'est pour ça que je vous ai dit, tout universel implique un fondement dans le réel. Et c'est le problème de la signification. La logique mathématique ne regarde que la fonction, ne regardant plus la signification. Alors quand je ne regarde plus que la fonction, il n'y a plus aucun fondement dans la réalité. Et je suis en présence uniquement de relations que je peux fabriquer moi-même, dans l'ordre du possible. Il n'y a plus de fondement dans la réalité. Je m'arrête. Comment se fait ce passage du visible à l'invisible? On peut dire que c'est le problème de toute philosophie. Comment se fait le passage du visible à l'invisible? La signification de animal est quelque chose d'invisible. Vous ne pouvez pas la représenter. La signification de homme est quelque chose d'invisible. La signification d'un principe ou d'une loi est quelque chose d'invisible. C'est le domaine de l'intelligence. Alors que le domaine de l'imagination, c'est le domaine d'image, où je me représente tel ou tel animal. Et ça, c'est la représentation, qui reste une représentation imaginative. Alors que lorsqu'il s'agit de l'intelligence, ça signifie quelque chose. Et c'est le gros, gros problème. Et c'est un problème devant lequel tous les philosophes se sont heurtés, tous. C'est le problème philosophique. Le dernier livre, vous savez, de Merleau-Ponty, qui a paru après sa mort, du visible à l'invisible. Et Merleau-Ponty dit que c'est le problème fondamental de toute philosophie. Et c'est vrai. Comment je passe du sensible? Or, je dis que l'appréhension, c'est le fondement de ma vie intellectuelle. C'est donc le premier moment de ma vie intellectuelle. C'est lorsque j'assimile telle ou telle détermination, que je conçois telle ou telle détermination, que je conçois animal. Si c'est bien ce premier moment, comment suis-je passé de la représentation de tel ou tel animal à animal? Il y a eu là un passage qu'on appelle l'abstraction. C'est l'abstraction. J'abstrais de une quantité de chiens. J'abstrais d'une quantité d'expérience d'homme. J'abstrais donc d'une image sensible la signification de quelque chose qui aura un mode universel. L'universel est le fruit de l'abstraction. Cette abstraction, qu'est-ce qui l'a fait? C'est mon intelligence. Quand je suis attentif, je suis capable de penser. C'est pour ça qu'il faut du silence pour penser. Si on est trop distrait, si on discute de trop, on ne pense plus. Il y a une certaine, nécessairement, ça ne peut pas être autrement. Il y a une certaine concentration pour abstraire. Il y a des gens qui n'abstraient jamais. Je me souviens, c'était dans un livre qu'on lisait au réfectoire, alors ça prend une tonalité particulière. Dans sa vie, il a atteint une fois le degré de l'universalité. Donc il a abstrait une fois dans sa vie. C'est pas tout à fait vrai, parce que je crois qu'on abstrait beaucoup plus. Et on abstrait constamment. Notre langage est au niveau d'abstraction. Mais nous ne pensons pas. Des quantités de gens parlent sans penser. C'est ça qui est terrible. Il suffit d'arrêter leur conversation, puis leur demander ce que ça signifie, ce qu'ils ont dit, et ils ne savent pas. Donc, ils utilisent des mots abstraits sans savoir ce que ça veut dire, sans la signification. C'est terrible. Falsifier l'argent, c'est un crime. Falsifier la signification des mots, c'est terrible. Et ça arrive constamment, ça, parce que les gens ne pensent plus. Ils n'ont plus le temps de penser. Alors ils parlent indéfiniment. Ils ne pensent plus. Alors, comment ce passage, vous voyez, ce passage de l'image singulière, c'est descriptif, ça. L'image peut la décrire. À ce concept animal que j'exprime par ma parole, qui a une signification universelle et abstraite. Certains ont dit, alors je reviens à Descartes, c'est inné. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est une solution rapide. On donne sa langue au chat. Même quand on dit que ça vient de Dieu. N'est-ce pas ? C'est tout simplement faire appel immédiatement à Dieu. Je ne crois pas du tout. Je crois que Dieu a voulu que chacun d'entre nous, nous soyons autonomes dans notre vie intellectuelle. On est dépendant dans son cœur, et si Dieu veut, nous soyons intelligents. Et que nous essayons de raisonner, de comprendre un peu. Or, si ça vient directement de Dieu, il n'y a plus de vie de l'intelligence au sens absolu. Saint Augustin a dit l'illumination, c'est une autre solution. Mais c'est pas suffisant. Aristote a dit, et je reprends Aristote, Saint Thomas a repris cette notion d'Aristote. Il l'a reprise en discutant toutes les possibilités de cette dispute, de cette position, pour montrer qu'elle était capitale. Je crois que c'est la seule manière pour nous d'éviter Kant, d'éviter Descartes, d'aller plus loin. Aristote dit qu'il y a en nous l'intelligence active, le nous, poietikos, c'est-à-dire le nous actif. L'intellect agent, on dira, avec saint Thomas, le nous actif qui illumine nos images, pour que, à partir de nos images, la détermination fondamentale se précise et vienne spécifier, déterminer mon intelligence. Mon intelligence a donc en elle-même la capacité de découvrir, à partir des réalités que j'expérimente, ce qu'il y a de fondamental dans ces réalités. Discerner ce qu'il y a de nécessaire de ce qui est accidentel. C'est ça être intelligent. C'est de discerner ce qui est essentiel de ce qui est accidentel. Vous discernez ce qui est essentiel en découvrant animal et en laissant tomber des quantités de choses secondaires. C'est l'intelligence qui fait ça. Et l'intelligence est capable ensuite de récupérer le secondaire en regardant les qualités, en regardant la quantité, en regardant l'action, en regardant le lieu. Mais elle est capable d'abord de saisir ce qu'il y a d'essentiel. Tant que vous n'avez pas saisi l'essentiel, dans dans une réalité, vous tournez autour comme un chien de chasse qui n'a pas découvert son gibier. Le gibier de l'intelligence, ce qui détermine l'intelligence, c'est justement cette détermination fondamentale, l'essence d'une chose, sa détermination, sa forme. C'est ça qu'on veut saisir, sa détermination caractéristique. Eh bien, je crois que nous pouvons dire que l'intelligence a cette capacité d'illuminer le fantasme, d'illuminer nos images, et dans cette illumination des images, de faire apparaître la détermination principale, essentielle, la forme intentionnelle, essentielle, qui va déterminer l'intelligence, et l'intelligence, à partir de là, va concevoir ce qu'elle pourra dire ensuite. L'intelligence va assimiler cette forme intentionnelle pour saisir avec précision la signification de la chose. C'est donc le concours, la connaissance dans ce qu'elle a de tout à fait fondamental. C'est donc le concours de la réalité existante, de mes sens, de mon imagination et de mon intelligence. Et mon intelligence saisit alors quelque chose qui est au-delà du sensible, au-delà de ce que je représente. Elle saisit ce qu'il y a de fondamental et de premier. Et elle le dit, elle le saisit, elle le touche. C'est là où l'intelligence conçoit, vous voyez, le concept que nous avons de blanc, le concept que nous avons de animal, le concept que nous avons de rationnel. Ce sont des concepts tout à fait premiers. Ces concepts, l'intelligence les saisit à partir de la réalité. Et l'intelligence peut ensuite le dire. Mais elle le saisit d'abord, lié à l'expérience, lié donc au jugement, puisque toute expérience se donne dans un jugement. Vous voyez que là nous sommes en face de quelque chose de tout à fait secret dans notre vie intellectuelle. Cependant, nous pouvons le toucher, et c'est ça qu'il faut bien saisir. Réfléchissez d'où vient tout simplement la signification de vos mots. Vous l'avez appris, c'est sûr, quand on apprend une langue. Mais au-delà de la parole, il y a la pensée qui saisit telle ou telle signification. Et c'est ça qui est important. Puisque la parole est quelque chose pour transmettre. Ce n'est pas la parole qui me donne la connaissance. La connaissance est antérieure à la parole. Et la connaissance est premièrement, dans ce qu'elle a de fondamental, cette saisie de ces formes indivisibles et premières. Donc vous voyez comment la structure tout à fait fondamentale de ma vie intellectuelle, c'est l'appréhension, le jugement affirmatif, le jugement négatif. Il faudrait, à partir de là, saisir comment je passe de l'appréhension au jugement. Comment le jugement est donné fondamentalement, permet l'appréhension, mais le jugement n'est pas l'appréhension. Et le jugement saisit quelque chose de propre que l'appréhension ne saisit pas. Ce n'est pas seulement l'addition d'appréhension. Le jugement me met en contact direct avec ce qui est. Le jugement d'existence. Je m'arrête.
Bon, ben voilà, ça va très bien. Bonjour la compagnie. Voilà, ouais, bon, ben
C'est tout.
c'est tout. Ça va. Tout va bien. Tout le monde est mort, mais tout va bien.
Cette balade.
Ah oui, les professeurs remplissent ces bulletins trimestriels au plus tard avant les conseils. Le professeur principal, par sa connaissance approfondie des élèves, joue un rôle primordial pendant le conseil. Il prépare la prestation de synthèse et il organise éventuellement une préconcertation sur les élèves qui révèlent de très grosses difficultés d'adaptation au milieu scolaire.
Hop.